With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Post-Scriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Lettre sonore numéro 8. Chère salle d'opération.
De quoi on vous opère, monsieur ?
D'accord.
Vous êtes bien à jeun ?
Tout à fait.
Ok, parfait. Toujours pas d'allergie ?
Non.
Rien de nouveau depuis la consultation d'anesthésie ?
Non.
Ok, très bien. On va continuer à vous faire respirer profondément dans le masque.
D'accord.
Et puis on va pas tarder à vous endormir.
D'accord.
On ne garde parfois aucun souvenir de cet endroit. On y entre pour y être endormi sous l'effet puissant d'un anesthésiant. Nu, vulnérable, sur une table. Dans la salle d'opération à l'hôpital, des mains ouvrent, cousent, comme pour tricoter à l'intérieur de notre corps. Cathédrale de carrelage et d'acier, des blouses blanches et bleues opèrent un véritable ballet. Il y a des codes, des protocoles, chacun à sa place. Si on se parle, c'est pour se dire l'essentiel. Avec notre micro, nous sommes allés cuire ces quelques mots, et d'autres encore, au cœur du bloc opératoire du service urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Un chirurgien, une anesthésiste, une infirmière, une panseuse et un patient nous racontent leurs ressentis au fil d'une opération.
Est-ce que vous avez fait l'antibioprophylaxie ? Pubis sous électrique. Et tu peux me passer l'arrêt de Zano ? On est bien, déjà. Le pubis c'est là. C'est parfait, non ? C'est pas la peine. Le pubis c'est juste là.
Chère salle d'opération. Quand j'arrive le matin, tu es toute propre, toute froide. T'es bien aérée. C'est nickel. Je vais y mettre mes instruments, je vais tout préparer pour que tout soit super. Et puis il y a l'infirmière anesthésiste qui arrive. Et puis elle commence avec son respirateur, avec ses petits bruits qui commencent, ses petites alarmes. Et moi je fais mes petites affaires et elle fait ses petites affaires. Ça commence à se peupler. J'ai tout bien préparé ? Ouais, j'ai tout bien préparé. Chère salle d'opération, maintenant tu vas accueillir ce cher patient.
On est nu sous une tenue de bloc, une blouse. Charlotte sur la coiffe et des chaussons aux pieds. Je suis Patrice et je suis patient à l'hôpital Saint-Louis et je vais rentrer dans très peu de temps au bloc opératoire pour une intervention de la prostate. Donc, il y a déjà quelques temps, j'étais suivi, comme beaucoup de patients, à partir de 50 ans et les résultats de la biopsie ont détecté un cancer de la prostate. Voilà. Donc, j'ai décidé de venir consulter ici et donc de me faire opérer dans cet établissement. Ça sera une nouvelle vie, différente forcément, mais aussi une délivrance. L'opération devrait se dérouler sur 1h30. On essaye de pas trop montrer, mais on a aussi peut-être un petit peu une appréhension. Lorsqu'on a besoin des autres, il faut qu'on ait confiance. Si on a besoin d'un plombier, il faut avoir confiance en plombier, un mécanicien, on a confiance.
Il faut que vous dormiez. Si vous dormez pas.
Alors, je vais vous endormir et juste avant, je vais vous mettre le masque d'oxygène. Vous vous souvenez peut-être de la dernière fois déjà. Voilà.
Fait, ouais.
Donc c'est le même. Le même oxygène, 100%, vous n'en aurez pas de meilleur.
D'accord.
Et puis vous respirez à votre rythme en vous concentrant sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Par le nez, la bouche, comme
d'accord.
vous voulez. Et vous inspirez profondément, peut-être par le nez comme ça. Et vous soufflez loin par la bouche.
D'accord.
Voilà. Si vous avez envie de fermer les yeux. Vous installez dans votre jardin.
Ouais.
Ah oui, confortablement peut-être. Vous avez peut-être un joli salon de jardin.
Voilà,
fermez les yeux et vous vous projetez là-bas.
D'accord.
Et puis tout pendant que vous respirez, vous concentrez vraiment sur la respiration, ben nous on va commencer doucement l'anesthésie. Voilà, donc vous allez sentir les effets arriver. Peut-être le sommeil, si c'est le sommeil, eh bien vous l'accueillez et vous plongez profondément dedans. Voilà. Chère salle d'opération, il y a 36 ans déjà, je poussais ta porte pour la première fois, avec un peu d'appréhension et très rapidement beaucoup d'émerveillement, au point que eh bien, je suis restée en ton sein. Jusqu'à maintenant, tu m'as vu changer, évoluer, grandir, et je tenais à t'en remercier.
Vous avez vu le message pour faire descendre le malade ? Suivant ?
Ben ouais, c'est pas venu. Le patient suivant ? Monsieur R.
Ouais.
C'est pas au courant ?
Non.
Ah bon ? Eh ben c'est bon. Oui, oui, oui.
Je suis Virginie Béliard, infirmière anesthésiste depuis une vingtaine d'années et infirmière depuis 30 ans quand même déjà maintenant, ce qui ne me rajeunit pas. Et en plus, sophrologue depuis 5 ans, où j'exerce ici notamment sur l'hypnose au bloc opératoire, toujours en correspondance et sous l'égide du médecin anesthésiste réanimateur. Je suis capable d'accueillir le patient, de l'installer. Et l'anesthésiste, là, arrive, valide le protocole que j'ai préparé. Je l'accompagne pour réaliser cette anesthésie, c'est-à-dire l'endormissement, ou pas du patient, mais qui va lui permettre d'avoir sa chirurgie, sans douleur. Et ben, cela fait 20 ans, finalement, que je travaille au bloc opératoire. À un moment, je me suis rendu compte que je n'étais plus dans le relationnel humain, mais plutôt très technique. Et j'ai eu envie de me reconnecter 100% du temps à l'humain, quel qu'il soit. Je pourrais presque le dater à peu près 7-8 ans. Alors effectivement, il y a un déclic dont j'ai pris conscience le jour où, alors que j'avais déjà vécu cette situation de très nombreuses fois, je travaillais, il me semble, en gynécologie, en chirurgie, donc au bloc opératoire, et j'accueille une jeune patiente de 40 ans atteinte d'un cancer grave et qui allait certainement décéder extrêmement rapidement. Là, on l'opérait d'une chirurgie assez invalidante. Je me suis trouvée en difficulté pour lui parler, pour la toucher. Cette jeune femme de 40 ans, mère de famille, qui pleurait, parce qu'elle savait que malheureusement, elle n'en avait plus pour très longtemps. Et je me suis rendu compte que je me retranchais derrière la technique. Toutes mes machines, le scope, la tension, la respiration avec le masque. Et j'ai vu le fossé qu'il existait entre cette personne et moi. J'étais débordée par son émotion à elle, complètement. J'aurais aimé lui dire tellement de choses à notre petite dame. J'espère qu'elle me pardonnera de là-haut et qu'elle sera indulgente. C'est vrai que je me suis poser la question du pourquoi j'étais plutôt retranchée dans mes débuts d'expérience professionnelle derrière cette technicité. En fait, je pense que notre formation de soignant, il y a déjà, je vous dis, presque 30 ans, n'était pas basée sur la relation d'humain à humain, puisque le patient, nous le voyons presque comme un mannequin, finalement, à qui on collait une étiquette. Voilà, quand on apprend à l'école d'infirmière, le mannequin qui a une hypertension, qui a une fracture de la hanche, voilà. Donc, on avait du mal à se reconnecter aux patients qui arrivent maintenant, je vous dis, dans les écoles, puisque moi-même, en tant que sophrologue, je vais à l'école d'infirmières anesthésistes pour leur parler de la sophrologie et de son accueil bienveillant. Je me suis rendu compte que, moi, ça m'a changé. Dernièrement, c'est un monsieur, au mois d'octobre, je me souviens très bien, qui ne connaissait pas du tout la sophrologie. Je lui ai dit, ben, on va faire un essai, si vous voulez bien, ensemble, puis on en parlera en salle de réveil. Il me dit, oh, j'ai adoré aller me promener avec vous, aller chercher les champignons sur le chemin dont on avait parlé ensemble. Voilà. On se rend compte que les patients vivent mieux l'après, jusqu'à diminuer les médicaments dont ils ont besoin pour gérer la douleur. Voilà. Ça a un vrai bénéfice.
Il faut avoir les mains propres, bien sûr, pour opérer. Donc, on se lève, puis après, on met un gel antibactérien avec une brosse et du savon. Tout simplement. En insistant bien sur sous les ongles qu'on a courts, bien sûr. Et on se lave jusqu'au coude. Chère salle d'opération, tu es cet endroit où je retrouve à chaque fois ma famille et vraiment ma raison d'être. Comme un équipage formé, prêt à appareiller et à transporter le patient vers l'autre rive, celle de la guérison.
C'est bon, on est prêt.
un peu rentré dans l'arène. Pardon. Donc là, on démarre pour une heure et demie, quoi, à peu près. Enfin, pas plus. C'est bon pour toi, Alice, on peut assiser? Alors, incision. Oh, c'est une incision de 5-6 cm juste au-dessus du pubis, dans la direction du nombril.
François Desgrandchamps, urologue, chef du service d'urologie de Saint-Louis, professeur d'urologie à Paris 7. Quand j'ai commencé la chirurgie, mon idée, c'était d'être chirurgien de province qui faisait un peu tout. À l'époque, on pouvait tout faire, la chirurgie viscérale, digestive, orthopédique, tout ça est fini. Maintenant, il faut être très spécialisé. Mais à mon époque, c'était encore possible. Je me suis dit, j'aimerais bien faire un peu de tout plus tard. Et donc, j'ai commencé en premier semestre, un semestre de chirurgie digestive. Et donc, le gars qui faisait ça faisait un peu de tout. Et en particulier, il faisait un petit peu d'endoscopie. Et ça a été une révélation. C'est-à-dire que l'endoscopie consiste à rentrer, pour les urologues en tout cas, par l'urètre, donc pour les hommes par la verge, un appareil endoscopique, une petite caméra miniature, et on remonte le canal et on débouche dans la vessie. Et j'ai trouvé ça magnifique. J'avais l'impression d'être en vol plané, c'est que vous êtes en haut de la vessie, puis après vous faites un rase-mode sur la muqueuse de la vessie. J'ai trouvé ça splendide, tout simplement. Et je me suis dit, je veux faire ça. J'étais externe la première fois que je suis rentré au bloc, et j'étais externe en orthopédie. Et à l'époque, pour lutter contre les infections, on opérait sous des tentes. C'est-à-dire qu'en fait, vous rentriez sous une tente, il faisait chaud, il y avait du bruit, avec ventilé. Et à un moment donné, le chirurgien, moi j'étais là, je tenais un truc, hein, les externes, ils sont là, ils regardent. Bon. Et puis, il faisait chaud, j'étais inquiet, je suis tombé dans les pommes. Et donc, le chirurgien, immédiatement, dit, surtout, tombe pas dans le champ. C'est que, rien à foutre que je me casse la figure, mais surtout, il fallait pas que je m'écroule sur le malade. Voilà. Premier souvenir. Et quand même, après, j'ai persévéré. Je n'ai plus tombé jamais dans les pommes. Mais je comprends que parfois, et ça arrive, hein, les externes ou les penseuses, toujours maintenant, tombent dans les pommes parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il fait chaud. C'est particulier comme ambiance.
Il faut le fixer au pubis.
Pasteur disait, enfin on lui prête en tout cas, qu'il disait que être médecin c'était écouter toujours, soigner souvent, guérir parfois. J'ai un métier où je vois à peu près peut-être entre 100 et 200 destins par semaine. Il y a une confiance absolue du patient pour se laisser opérer, c'est quand même un acte d'une violence extrême, hein. C'est coups et blessures si on veut dire. Et donc il faut savoir expliquer avec des mots que tout le monde peut comprendre ce qui se passe. Après c'est l'arrivée au bloc, très impressionnante. C'est un petit côté Star Trek quand même dans le truc. Hein. Et donc on se dit, tant de technologies et tant de personnes. Pour opérer un patient, on était presque une dizaine tout à l'heure. Hein. Et donc ça rassure énormément les gens.
On commence à perdre sa VS. T'as encore un réflexe ciliaire ? On va attendre alors.
Chère salle d'opération, tu es le théâtre de plein de moments différents et de plein d'émotions différentes. Le théâtre de joie, d'inquiétude, et tu vois passer en ton sein de multitudes de personnes. Tu dois en voir de toutes les couleurs. Chère salle d'opération, tu es vraiment un lieu particulier et un lieu qui m'est cher.
Alors, ok, les ventiles, super. Méline Guédel. Je vais approfondir quand même.
Je suis le docteur Alice Blay, je suis médecin anesthésiste réanimateur. À l'hôpital et à fortiori dans une salle d'opération, on est toujours stressé, anxieux. C'est rare les gens qui vous disent « Ah, c'est génial, je vais me faire opérer demain ». Même quand on l'a choisi, même si c'est quelque chose de fonctionnel, il y a toujours une part d'appréhension. Et donc là, c'est nous, en tant que soignants, on a tout notre rôle de réaxer le patient et de le ramener en fait ici et maintenant au bloc opératoire. Ce que j'aime dans ces moments-là, c'est d'être un maillon de l'équipe. Tout se passe bien et c'est vrai que le patient, il vient pour le chirurgien, il vient pour se faire opérer par le chirurgien, mais il a peur de l'anesthésie, c'est parce qu'il a peur de l'anesthésie et de pas se réveiller, ce qui en pratique est absolument exceptionnel, voire théorique, mais tout peut arriver. Souvent, ce que je dis aux patients qui me disent « Ah là là, docteur, j'ai peur, de quoi vous avez peur ? J'ai peur de pas me réveiller. » Ce que je leur explique, c'est que, alors oui, il peut se passer n'importe quoi quand vous traversez la rue, sauf que là, vous traversez la rue et que pendant que vous traversez la rue, il y a quelqu'un qui regarde à droite pour vous et à gauche pour vous. C'est l'anesthésiste ou l'infirmière anesthésiste, en tout cas l'équipe d'anesthésie qui est en permanence à côté de vous. effectivement, quand tout se passe bien, ça ne se voit pas, en fait. C'est normal, on fait bien notre métier. C'est vrai que peut-être certains acteurs, de temps en temps, ne se rendent compte vraiment de notre plus-value que quand il y a un problème, quand il y a une urgence vitale, où là, effectivement, tout le monde est dans ses petits souliers, on nous appelle, le cas extrêmement rare au bloc opératoire, j'espère, un arrêt cardiaque. Et donc là, vous vous coordonnez et tout le monde là vient vous remercier. Alors qu'au quotidien, on ne vous remercie pas, mais en fait, vous faites le même métier. On est deux capitaines, effectivement, le chirurgien et l'anesthésiste. Sauf qu'il n'y a pas de meneur, c'est qu'il faut s'écouter l'un l'autre.
Voilà. Est-ce qu'il est cuirarisé, le patient ? Parce qu'il faut bien tendu, non ? Okay.
Le chirurgien, c'est le responsable, point final, de tout. C'est-à-dire qu'à la fin de la fin, s'il y a un problème au bloc, le chirurgien est responsable de son malade. Bien sûr, il y a des responsabilités qui peuvent être partagées, mais il est commis dans toutes les responsabilités. C'est vous qui l'avez fait venir là, ce jour-là, pour être opéré, donc vous êtes responsable de lui. Quand vous opérez un patient, que pour des raisons inhérentes à sa maladie, il se met à saigner beaucoup, il a une transfusion massive, il a plus de tension, il est sous adrénaline, il n'est pas loin de passer sur l'autre rive, quoi. Qui part en réanimation chirurgicale, que vous passez le voir quelques heures plus tard, et que bah, ça va déjà mieux, et que les réanimateurs vous le sortent. Moi, ils m'ont sauvé facilement 2 voire 3 patients. Je m'en souviens très très bien. Donc ça, vous sentez l'importance de l'équipe. À la fin de la fin, s'il y a de la tension, c'est le patient qui va finalement en payer le prix. C'est qu'une chirurgie où il y a du conflit dans la pièce, on peut avoir des choses imparfaites, un geste incomplet, des choses parce qu'on est inquiet, stressé ou on pense à autre chose. Donc, le rôle du chirurgien, en tant que chef d'orchestre, c'est aussi d'assurer l'ambiance. Donc, vous pouvez avoir des gens qui se froissent parce que une penseuse ou un penseur peut se froisser parce qu'il a l'impression d'avoir été humilié pour une raison quelconque, mais j'espère que ça n'arrive pas chez nous, mais si c'était le cas, c'est jamais la personne. Mais c'est la fonction qui se sent humiliée.
C'est les mêmes ? Non,
c'est nous.
Chère salle d'opération, pour moi c'est un dîner parfait, à savoir, tout est en place. Les gens savent exactement où ils doivent se mettre, quelle place ils ont, quel couvert ils doivent prendre. Tout est réglé. C'est un ballet. C'est un ballet magnifique et à regarder, c'est impressionnant et très beau.
Ça, c'est un moment important, parce que c'est là où on peut avoir des pertes sanguines, malgré toutes les précautions. Voilà.
Je m'appelle Candice, je suis infirmière de bloc opératoire diplômée d'État, penseuse. À savoir, je suis circulante, je circule autour de la salle d'opération pour donner aux chirurgiens les choses stériles. Je peux être instrumentiste, comme dans les films, urgences et compagnie, où on nous voit sur le champ opératoire à côté de lui, auquel cas, là, je lui donne les instruments directement. En fait, je suis garante de la stérilité de la salle. Des gens qui s'y trouvent, des gens qui rentrent, qui sortent, est-ce qu'ils sont bien habillés, est-ce qu'ils ont bien leur bavette, est-ce qu'ils ont bien leur charlotte, leurs surchaussures. C'est moi la directrice de la stérilité de la salle. Si je constate une erreur d'asepsie, le chirurgien m'écoute et changera ses gants s'il le faut, etc. C'est pour ça qu'on est habillé comme des schtroumpfs. C'est pour éviter qu'on mette de l'extérieur dans l'intérieur du patient. À côté de ça, j'ai, dans ma petite vie d'infirmière de bloc opératoire, j'ai souvent vu dans les yeux des chirurgiens comme un peu de compassion, un peu de pitié. Ils ont toujours l'impression que le fait d'être infirmière de bloc opératoire, c'est comme si on était des chirurgiens ratés. Et ce serait chouette qu'on les rassure aussi pour leur dire « Mais on vous envie pas du tout, on est juste là pour vous aider. » Ce serait un truc à leur dire. « C'est génial ce que vous faites, mais en aucun cas on aimerait être à votre place. » En tout cas pour moi. Très très souvent, en réalité, ce que je ressens, c'est que mes journées, elles dépendent beaucoup, finalement, de l'émotionnel de toute une salle d'opération. Elles ne dépendent pas de moi. Est-ce que l'anesthésiste va être sympathique aussi ? Est-ce qu'il va écouter ce que je lui dis ? Quand je lui dis est-ce que je fais descendre le patient, va-t-il me répondre ou pas ? Et enfin, le chirurgien primordial dans mon métier, puisque je suis tributaire de cette personne et je suis son aide particulière quelque part. En fonction de son humeur, il peut se passer des choses fantastiques, à savoir comme aujourd'hui par exemple, où j'ai entendu 2-3 fois, la lumière c'était super, là je me sens bien, là c'est bien. Je crois qu'il est content de ce qu'il voit, de ce qu'il fait. Et ça m'enchante parce qu'en fait,
c'est moi qui ai organisé cette fête, c'est moi qui ai organisé cette salle, avec ce matériel-là, avec cette lumière-là, avec les gens qui entourent, les gens qui ne parlent pas trop fort, mais parfois aussi, on entend « bouge ton cul, patate ». Eh bien, quand on entend ça, on a envie de répondre, on a envie de dire « mais de quel droit vous me parlez sur ce ton ?» Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas mon chef de service et c'est pour ça que je suis depuis 17 ans au service de professeur Desgranchons, parce que j'aime cette ambiance, parce que en tant que chef de service, je pense qu'il a des valeurs. Et d'ailleurs, nous sommes tous des gens qui restons depuis longtemps dans le service que dans le bloc opératoire, ce qui est bien une notion de sérénité, c'est-à-dire de fidélité. C'est parce que justement, je pense qu'il y a quand même ce respect. Et je pense très sincèrement que c'est le chef de service qui donne la donne. Au bloc opératoire, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est comme s'il y avait un sas. Vous savez, entre le lavage de mains et la salle d'opération, quand vous regardez dans les films, il y a toujours un sas. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai bien l'impression qu'il faudrait être dans leur tête et leur demander « Mais qu'est-ce qui se passe quand ils se lavent les mains ?» Parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Donc les médecins, ils arrivent le matin, certains vous font la bise, certains vous demandent comment vous allez, comment vont vos enfants, et vraiment d'une bonne relation. Ils vont se laver les mains, c'est plus la même personne. Ils ont besoin de se décharger et parfois ils ont besoin de se décharger et forcément c'est sur l'infirmière. À qui voulez-vous qu'ils disent que la pince est nulle ? Il va bien falloir qu'il se retourne vers quelqu'un. Il ne va pas le dire au patient, mais par contre il va se tourner vers moi qui lui a donné cette pince. Et il a besoin d'un bouc émissaire. Alors ça peut prendre des gros mots, ça peut prendre des insultes, ça peut faire tout ça. Un chirurgien peut très bien, parce que sa pince ne fait pas ce qu'il veut qu'elle fasse, donc est-ce que c'est de sa faute, est-ce que la faute à la pince, je ne saurais jamais, hein, mais peut très bien jeter à travers la pièce une pince.
C'est câble ? C'est fini. Merci pour tout.
Il ne s'agit pas juste d'aller opérer votre malade et enlever la glande. Vous avez fait 10% du travail. Vous avez soigné la prostate, mais pas le malade. Et le reste des 90%, c'est tout le reste. C'est-à-dire, en fait, psycho-oncologue, infirmière d'annonce, kiné, et bien sûr, la discussion avec moi également, hein, bien sûr. Mais c'est tout ce travail qui se fait en amont pour qu'en aval, ça aille bien. On sait que l'aspect psychologique est vraiment fondamental.
Comment ça va ?
J'ai déjà bu un petit jus de pomme et ça m'a fait du bien. Donc tout s'est bien passé. Là je sens, j'ai pas de douleur, rien du tout, donc voilà, tout va bien. Je vais remonter dans ma chambre et puis bon après je vais attendre les instructions des infirmiers et du professeur Desgranchons. Puis l'équipe médicale était tout à fait à l'écoute et tout à fait... On est entre de bonnes mains, les gens sont là pour nous permettre d'aller mieux demain, de guérir. Et ça, c'est formidable. Et on ne peut que les remercier. Le facteur humain est un facteur très important. Très important. Et ici, on se sent dans une famille.
Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer Chère Maternité. Vous pouvez aussi retrouver Postscriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.